à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Un garçon comme les autres, comment se construit une masculinité? L'historien Yvon Jabloka poursuit sa réflexion autour du genre à travers son histoire dans Un garçon comme vous et moi qui paraît au Seuil. Il sera l'invité aujourd'hui de la grande table des idées, à retrouver donc à partir de 12h55. Mais d'abord, les théâtres restent fermés. En attendant de pouvoir rejouer, le comédien Nicolas Bouchaud revient sur 30 ans de théâtre et de compagnonnage artistique dans un livre d'entretien Sauver le moment qui paraît chez Actes Sud. Une expression, sauver le moment, qu'il a volé au critique de cinéma Serge Danet, à qui il avait consacré un de ses plus beaux spectacles. Il est aujourd'hui notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Que se passe-t-il quand on est sur scène, quand on joue, quand on s'y prépare, quand on en rêve, quand un grand désir vous y mène? Bonjour Nicolas Bouchaud.
Bonjour.
La scène vous manque en ce moment?
Bien sûr qu'elle me manque. C'est un moment pour nous très difficile, très compliqué. Voilà, heureusement, il y a des choses qui sont quand même possibles, comme les répétitions. Mais le fait de ne pas pouvoir présenter ces spectacles à un public est un crève-cœur. Enfin, c'est difficile. C'est un moment très difficile.
Alors, que se passe-t-il quand on est sur scène? Et surtout, que se passe-t-il quand on n'est pas sur scène? On en profite pour lire ou relire, répéter comme vous l'évoquiez, et aussi se souvenir des belles choses.
Ce livre, je l'ai écrit avant la pandémie. Donc c'est pas un livre qui a été écrit pendant. Donc non, j'ai essayé de décrire dans le livre, de rendre compte de quelle expérience peuvent faire les acteurs ou les actrices sur une scène de théâtre, et qu'est-ce qu'on manipule en fait quand on joue face à des spectateurs. Quels sont les états qui nous arrivent, qui nous prennent. Enfin, c'est de témoigner, d'essayer de témoigner le plus précisément possible d'une expérience, de transmettre une expérience, celle du jeu, J-E-U.
Et dans cette collection, Le temps du théâtre, chez Actes Sud, c'est pas souvent que les acteurs prennent la parole, hein, c'est plus souvent les metteurs en scène. Or, les comédiens ont aussi leur propre perception de la scène, évidemment, de la relation avec le metteur en scène, leur propre perception des textes, puisque c'est eux qui les portent aussi dans leur voix, et de cet espace dont on va parler juste, et c'est ça qui est intéressant. Vous ouvrez ce livre, enfin la préface, qui n'est pas de vous, par cette citation de Louis Jouvet. Tout le théâtre n'est qu'amitié, à part ceux qui discutent pour avoir raison et qui perdent cette amitié par vanité ou amour propre. Vous l'avez perdue, vous, de temps en temps, et retrouvée?
L'amitié? Non, je l'ai même... c'est même sans doute ce que je suis allé aussi chercher en faisant du théâtre et en commençant à faire du théâtre dans ce qu'on appelait au début des années 90 les bandes, les groupes, qui est devenu il y a quelques années, pour qualifier la génération en dessous de moi, les collectifs. Mais ça, c'est des choses des mots que les journalistes utilisent pour nommer une génération qui arrive, si vous voulez. Mais l'idée du groupe, c'était important pour moi, oui, bien sûr. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on peut encore répéter aujourd'hui et que c'est important, c'est quand même la première chose qui nous fait du bien quand on retourne en répétition, c'est quand même de retrouver les autres, enfin de retrouver ses camarades et de sortir un peu, de pouvoir un peu sortir de l'enfermement dans lequel nous met cette pandémie, ouais, absolument. Donc l'amitié, c'est une valeur effectivement pour moi très importante, ouais. Et ça, c'est une citation que Véronique Timsit a faite. Puisque c'est elle qui a écrit la préface. Elle est très juste.
Mais du coup, est-ce que le groupe, le collectif, la troupe, peu importe comment on l'appelle, la bande,
ouais,
hein, aussi, c'est aussi ça ou eux qui peuvent ou qui vous ont préservé de toute vanité, qui ont aussi dégonflé les égos? C'est eux qui sont aussi des remparts à cet amour propre qui peut aussi dévorer le comédien. Qui c'est s'expose, qui expose son corps, qui expose sa personnalité au public.
Absolument, qui s'expose tous les soirs, et c'est un drôle de truc que de s'exposer tous les soirs. Quand on s'y arrête un peu et quand on y pense, je me souviens, il y a des soirs où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire sur une scène face à des gens? C'est un truc quand même un peu particulier. Le groupe, il protège... Je pense qu'après, chacun... On peut individuellement ne pas se prendre pour ce qu'on joue ou ne pas se voir plus grand qu'on est. On peut le faire seul. On n'a pas besoin d'un groupe pour ça, je veux dire, a priori. Après, le groupe, ça permet une circulation de la parole et surtout, ça permet de... Quand on dit le groupe, c'est des groupes d'artistes où les choses sont relativement partagées. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement au service d'un metteur en scène, où on n'est pas simplement en train d'exécuter les ordres du metteur en scène, mais il y a une circulation de la parole. Moi, c'est ce genre de groupe-là que j'ai cherché. C'était le cas chez Gabili, c'est le cas chez Jean-François, Sivadier aussi, où la parole circule, où les choses se font entre les gens. Parce que vous disiez très justement tout à l'heure que c'est assez rare les livres... En plus, c'est Actes Sud qui m'a fait la proposition. Je veux dire que j'ai pas amené un manuscrit déjà écrit. Et c'est vrai que c'est une collection où il y a essentiellement des metteurs en scène. Mais ça, c'est parce que je pense qu'au théâtre, depuis une grande partie du XXe siècle, le personnage principal du travail théâtral, c'est le metteur en scène, puisqu'il y a un avènement de la mise en scène au XXe siècle et que c'est ce personnage de metteur en scène à qui, pendant de nombreuses années, on a demandé tout, en fait. De trouver l'argent pour une production, de donner un sens à ce qu'il faisait, de choisir les textes. Et donc, moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était vraiment c'était les mises en scène de Chéreau, c'était Strehler et tout ça. Et donc, cette personne du metteur en scène était vraiment mis en avant de façon très forte. Et c'est vrai que les acteurs, les actrices avaient moins la parole.
Oui, d'autant qu'ils sont dirigés par les metteurs en scène. Alors le metteur en scène, c'est le personnage de l'ombre, mais c'est aussi, en tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu dans l'imaginaire, un peu le marionnettiste, celui qui dirige, celui qui met en scène et celui aussi qui fait danser tout ce petit monde sur cet espace si particulier qu'est la scène, sorte de petite société miniature, sorte de pays imaginaire peut-être aussi. Vous évoquiez déjà deux noms de metteurs en scène qui ont beaucoup compté pour vous, Didier-Georges Gabili, et vous racontez que lui, Gabili, il vous a vraiment appris l'ouverture. D'ailleurs, c'est le premier chapitre du livre, c'est ouvre-toi, rends-toi disponible aux autres, tandis que Jean-François Sivadier, peut-être, vous aurez aussi raconté comment appréhender l'espace. On écoute Jean-François Sivadier l'an passé.
La finalité du plateau, si tant est que, enfin, quand on fait du théâtre avec des acteurs, c'est que l'espace que vont ouvrir les acteurs dans la tête des spectateurs, l'imagination, l'espace énorme qui vaut tous les décors du monde, cet espace-là est infini. Moi, il m'est arrivé d'aller voir des spectacles il y a très longtemps. Et je me souviens des acteurs, et je me rappelle à peine du décor, mais je me souviens que l'espace qu'a ouvert devant moi tel ou tel acteur, même il y a 20 ans, me fait encore rêver.
Parlez-nous de cet espace. Comment vous avez-vous appris à le domestiquer, à le maîtriser ?
C'est-à-dire, ce que dit Jean-François, c'est assez... Jean-François, il réfléchit plus comme un acteur que comme un metteur en scène, d'ailleurs, dans son travail. C'est quelqu'un qui accorde une place très importante aux acteurs. Vous disiez tout à l'heure que le metteur en scène est celui qui dirige les acteurs, etc. Oui, c'est vrai, c'est la définition. Mais je vais me faire un peu la voix au cas du diable. Combien de spectacles ont été sauvés par des très bons acteurs et des metteurs en scène moyens, par exemple? Ça, on en parle moins. Mais je veux dire que... Quand Jean-François parle des acteurs, il donne une place centrale aux acteurs. Et il dit cette chose qui est très simple, au fond, que dit Bergman aussi, c'est dans Fanny et Alexandre, c'est très beau. Il dit le théâtre, c'est très simple. Un acteur arrive avec une chaise, il présente la chaise et il nous dit, il le fait dans le film avec les enfants. C'est un des personnages qui fait une représentation pour les enfants dans la chambre. Et il prend une chaise, toute pourrie, et il dit, regardez, c'est incroyable, cette chaise, tous les rois se sont assis dessus, c'est une chaise qui vaut extrêmement cher, etc. Et c'est une chaise extraordinaire, et juste en le disant, nous, on fait un pacte avec lui, un pacte silencieux, en disant, d'accord, on va te croire, Tu nous dis que cette chaise est merveilleuse, cette chaise est merveilleuse. Voilà. Donc, par exemple, ce rapport à l'espace, il commence là, quand on joue. C'est-à-dire qu'on sait qu'en arrivant dans un espace, même s'il est assez dépouillé, même s'il n'est pas signifiant, même si les choses ne sont pas représentées, on sait qu'avec la parole, qu'avec le jeu, on peut faire rêver les gens, emmener les gens dans des mondes totalement incroyables, avec très peu de choses. Et ce très peu de choses, ça commence par une actrice ou un acteur qui rentre sur une scène, avec rien, même sans décor, rien. Ça, c'est une chose qu'on fait beaucoup, par exemple, dans le travail qui est si difficile, mais tellement beau du clown. On fait des improvisations extrêmement difficiles, très simples. Tu entres, tu sors. Mais entre l'entrée et la sortie, il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, mais quoi? On ne sait pas, c'est l'improvisation. Et donc, moi, j'ai vu des improvisations extraordinaires où quelqu'un rentre et puis il commence à jouer avec une toute petite chose et tout d'un coup, quelque chose apparaît, quelque chose se passe, de la présence même de la personne qui est rentrée. Donc, ça commence comme ça, en fait. Un acteur ou une actrice entre, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Après, c'est ce qu'on appelle la présence. C'est pour ça que je dis dans le livre, jouer, c'est une certaine façon, d'une certaine façon, ça pourrait être d'inventer du temps sur un plateau. C'est-à-dire un temps à moi, mais qui est partageable avec le temps d'un autre, le partenaire ou le spectateur. Mais c'est inventer du temps. C'est ce moment dont je parle dans le titre, Sauver le moment. C'est ce temps qui pousse à l'intérieur du temps chronologique. Voilà. Alors, je le dis, ça a l'air théorique, mais c'est une chose qu'on peut ressentir réellement quand on joue, mais aussi dans la vie. C'est-à-dire ces moments où on est pleinement dans l'instant présent, et être pleinement dans l'instant présent, c'est savoir déjà qu'il est en train de disparaître. Donc, c'est être dans un temps qui est réellement une faille, une brèche entre le passé et le futur. Et c'est ce que j'appelle à un moment dans le livre le temps qui reste, c'est-à-dire qui travaille et qui transforme notre temps chronologique. Et ce reste, il ne faut pas l'entendre comme une portion numérique, hein, mais c'est ce qui reste inassignable à toute division et à toute catégorie. Et au fond, on pourrait dire, c'est le temps de l'expérience. Voilà, qu'on peut faire chacun dans la vie quand tout d'un coup, on est dans un état, et c'est ce qu'on recherche sur un plateau de théâtre, c'est pour ça qu'on le reconvoque tout le temps, mais on peut l'éprouver dans la vie. Moi, je l'ai éprouvé à des moments dans ma vie, très simples, des moments de rien où on est assis quelque part au soleil, et tout d'un coup, tout s'ouvre, tout se dénoue. Il n'y a plus aucune barrière entre mon œil et ce que je vois ou mon oreille et ce que j'entends. Voilà. C'est cet état-là qu'on va convoquer quand on joue sur une scène, mais aussi qu'on peut éprouver dans la vie. C'est le moment où on est traversé par une expérience, aussi minime soit-elle.
Est-ce qu'on peut essayer de recréer ce moment? Est-ce que vous pouvez aller à la porte? Est-ce que vous pouvez revenir, réentrer?
Ça, c'est trop dur.
Nicolas Bouchaud. Non. Si. Et imposer votre présence. Ben oui.
Mais on ne voit, pas, trouvé on voit comment. Pas à la radio.
Ben si, on entend.
Ben, on va rien entendre.
Mais on voit avec les oreilles, oui.
On voit que c'est bien, on répète comme ça. Et là, dans le meilleur des cas, on attend la petite crête du silence et on commence à parler. Et c'est ce moment, juste avant qu'on commence à parler, cette façon d'attendre la crête du silence qui, parfois, est un moment où on sent la vie réellement qui s'écoule.
Et là, vous avez sauvé le moment.
Je sais pas.
Jouer, être acteur, quelle est l'essence de ce métier? Vous placez le temps, comme vous venez de le raconter, au cœur de sa définition. Pourquoi? Parce que le théâtre serait un art du temps, et ça, on essaye de comprendre à quel moment ça s'immisce, un peu partout, de la répétition au jeu, de l'avant à l'après. C'est ce que raconte bien aussi votre camarade Didier, Georges Gabilly. C'est une manière très particulière de travailler, hein, sa façon à lui, un sens aigu du collectif et du théâtre public. Il est mort en 96. Il était le directeur du groupe Chang. On écoute.
pour moi, il ne peut pas y avoir de théâtre sans les mots. Et je crois que j'ai essayé de faire le travail avec les acteurs, parce que ça comptait beaucoup, puisque c'était un processus de travail particulier qui faisait que j'essayais de prendre ce risque d'écrire juste avant les répétitions. Ce qui, pour un écrivain, est vachement compliqué. J'écris pas du tout avec « on fait des improvisations » et je suis l'écrivain public, pas du tout. J'ai toujours écrit avant. Simplement, dans ce temps-là, au fur et à mesure, évidemment, le travail sur le plateau venait. On se disait, là, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, il y avait ces choses-là qui existent. Et puis bon, l'écrivain se remettait un petit peu au boulot. Mais ça a été absolument passionnant. Je le dis maintenant, je n'en ai pas toujours été sûr que c'était passionnant. Enfin, ou que c'était facile. On a l'impression de faire un théâtre difficile. Je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'on fait le théâtre du temps. Mais par exemple, tant qu'à faire un théâtre difficile, alors autant aller voir les gens, autant aller voir les gens dans les classes, autant aller voir les gens discuter si c'est encore possible dans des lieux de travail, inviter des gens à des répétitions, faire ce travail qui pour moi est cette partie très noble du théâtre public et qu'on n'a pas le droit d'abandonner comme ça, là aussi au merchandising, à la promotion extérieure, et que c'est pour moi très très important, oui.
Dans Sauver le moment, Nicolas Bouchaud, vous vous présentez aussi en avocat de ce théâtre du service public que vous défendez corps et âme. Vous avez été d'ailleurs à cette école-là. Il y a une idée qui se perd en ce moment de ce qu'est ou ce que devrait être le théâtre de service public. Il y aurait quelque chose à défendre tout particulièrement dans ce moment, à vos yeux?
Je sais pas, on peut pas dire les choses aussi peut-être aussi frontalement que ça. Le fait est que... C'était beau de entendre Didier. Ce qui est certain, c'est que quand on travaille dans le théâtre public, c'est ce qui rappelle d'ailleurs Didier, le temps d'un spectacle, c'est ce que je dis dans un texte, excède toujours celui de sa représentation. C'est-à-dire que il faut toujours redire que quand on joue un spectacle, on fait plein d'autres choses en même temps. Quand on est en tournée, on va dans les lycées, on va dans les facs, on va dans les prisons, on va rencontrer les spectateurs. On fait beaucoup de choses autour du spectacle. Bon, ça, c'est le théâtre public. Moi, il y a quelque chose. C'était en 2007 qui m'a un peu choqué. C'était la lettre de mission de Nicolas Sarkozy et François Fillon à leur ministre de la Culture Christine Albanel, où il y avait cette phrase. 2007, hein, on est. Il faut créer une offre qui réponde aux attentes du public. Ça, pour moi, ce n'est pas le travail de l'art. Si on fait de l'art en pensant au public, ou à des catégories d'âge, ou à des catégories sociales, ou à je ne sais pas quoi, on ne fait pas d'art. Ça, c'est le travail d'autres gens, de la télévision, si vous voulez, je ne sais pas de qui, mais pas de... Bon. Donc cette injonction de Nicolas Sarkozy et François Fillon à leur ministre de la Culture, c'était déjà un peu le signal que la chose publique, le théâtre public, allait être un peu transformée. Et le fait est que depuis ce moment-là, on demande par exemple beaucoup au théâtre depuis quelques années de trouver du mécénat, de trouver des investisseurs privés, etc. On n'est pas encore complètement attaqué par ça. Et on a en France, il faut le redire, un théâtre subventionné avec beaucoup de salles partout en France, des scènes nationales, des centres dramatiques, etc. Donc quelque chose reste quand même formidable en France. On a réussi avec ces dernières années à garder le régime de l'intermittence. On a quand même réussi certaines choses. Donc tout n'est pas... Mais il y a toujours ce danger qu'effectivement le politique oublie ou ne. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, parce que quand même les ministres de la Culture, ils restent 2 ans depuis plusieurs années, ils sont 2 ans au ministère et puis après c'est terminé. Il y a quand même quelle politique culturelle on veut, quoi. Et cette question, je trouve que depuis 2007, en tout cas, elle se repose régulièrement à tous les gouvernements successifs. Alors, est-ce que finalement le front culturel, comme on disait à une certaine époque, dont on pensait qu'il serait, qu'il faudrait l'amener dans des régions un peu comme ça reculées où il faudrait amener de la culture, mais moi je pense qu'aujourd'hui le front culturel il est absolument partout et il est aussi dans le 7e et le 5e arrondissement. C'est-à-dire que on voit bien comment le politique globalement n'a plus beaucoup de désir de culture ou presque de connaissance de ça. C'est-à-dire, il a fallu rappeler au président de la République Emmanuel Macron au mois de mars, après deux discours à partir du moment où la pandémie est arrivée, qu'il y avait un truc qui s'appelait la culture et que peut-être c'était bien d'en parler. Il a fallu une tribune d'artistes signée par beaucoup d'autres artistes pour qu'ils se décident à faire quelque chose. Donc, bon, c'est quand même...
Voilà, alors en même temps, quand même, le point positif de cette période, c'est que ce régime des intermittents a aussi permis de protéger bon nombre de professions dans cette période, en tout cas au moment du premier confinement, qu'il a été maintenu. C'est quand même une particularité française.
On l'a demandé.
Mais vous avez eu gain de cause sur ce point.
Bien sûr.
C'est important. C'est un régime pour lequel vous vous êtes beaucoup battu, oui, vous, sûr. Nicolas Bouchaud, et qui montre aussi son importance dans des moments comme celui-ci, des moments de crise sanitaire. Ce théâtre public qui reste un lieu de libre recherche, presque un lieu d'expérimentation aussi, tel que vous le défendez. Oui. Il a ce théâtre, son temple, en tout cas sa ville, c'est Avignon. Avignon, on y revient toujours, et vous aussi, dans ce livre, Nicolas Bouchaud, Sauver le moment, qui paraît chez Actes Sud. On va écouter les mots d'un certain Jean Villard à propos de la cour d'honneur du Palais des Papes.
Cette cour, pour des gars qui ont travaillé, qui ont appris leur métier dans des salles très fermées, de Paris, bien sûr. Et tout d'un coup, se trouver sur cette espèce de grand podium, non pas face aux étoiles, comme disent certains littéraires, mais simplement en plein air, et face à la pierre, face à cette grande assistance, a provoqué des interprétations de notre style que ce que, par ailleurs, ces mêmes artistes ont pu faire à Paris ou ailleurs.
Sûrement.
Et ça n'avait rien à voir avec le bruit des cigales, qui d'ailleurs ont été supprimées dès la deuxième année. Elles se sont tuées, les cigales. Je considère ça comme un petit crime personnel. Mais enfin, dans la cour, depuis 1948 ou 49, les cigales ne sont plus intervenues.
Vous avez été dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Nicolas Bouchaud, les cigales ?
Les martinets. Les cigales, non, pas à la cour
d'honneur. Vous les avez pas entendues ?
À la carrière Boulbon, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Avignon. Bah, le festival a été annulé l'été dernier. On espère qu'il reviendra cet été, parce que c'est vrai que c'est un lieu de rencontre, un lieu de croisement, un lieu aussi où l'année des comédiens, des metteurs en scène, des années de travail tendent aussi vers ce moment pour ceux qui peuvent s'y rendre, dans le off comme dans le in. Jean-François Civadier, votre complice, on l'évoquait tout à l'heure. Avec lui, vous avez été à Avignon ?
On a joué beaucoup de spectacles avec Jean-François Avignon. On a joué La Vie de Galilée, on a joué La Mort de Danton, on a joué Le Roi Lear dans la cour d'honneur.
Alors justement, vous racontez dans ce livre Le Roi Lear, ce Shakespeare mis en scène par Jean-François Civadier en 2007-2008.
2007, oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez présenté cette pièce-là dans la cour d'honneur du Palais des Papes ? Pourquoi ça restera un moment si particulier pour vous, ce que vous avez trouvé là-bas ?
Je pense que tous les lieux extérieurs à Avignon sont tellement extraordinaires, sont tellement beaux, sont tellement... qu'il y a quelque chose qui reste à chaque fois attaché à... Mais j'avais fait l'expérience en tant que spectateur aussi. Je trouve que quand on voit des spectacles dans la cour d'honneur, dans la carrière Boulbon, au cloître des Carmes, au cloître des Célestins, même en tant que spectateur, c'est des choses qui vous restent, quel que soit le spectacle d'ailleurs. Enfin bon, non, quand c'est très mauvais, non, mais...
Ça peut être très long.
Ça peut être très long. Mais le lieu est complètement fait partie intégrante de la représentation, au fond. Et donc, quand on joue à la cour d'honneur, c'est déjà un grand, évidemment, un grand plaisir, une très grande excitation. En plus, une pièce comme Le Roi Lear. Et puis, bizarrement, je me souviens, ce qui me reste aujourd'hui, c'est de me dire quand la pièce commence, et je me dis, non, c'est pas si impressionnant, en fait, cette cour d'honneur, parce que c'est vrai que quand on est sur le plateau de la cour d'honneur, les gradins et tout ça font que il y a, même s'il y a 2000 personnes, il y a quand même une espèce de proximité qui est assez rassurante et qui ne glace pas, en tout cas, la représentation. Mais c'est des moments, ça a été des moments absolument formidables. Bien sûr.
Voilà, vous racontez aussi votre partage du midi, la pièce de Paul Claudel, mise en scène collective. Et justement, tout le monde attendait de savoir à quoi allait ressembler cette pièce sans metteur en scène, ce projet sans metteur en scène, avec que des acteurs et des actrices qui avaient là, collectivement, en bande,
bien sûr,
signé ce projet-là.
C'était Valérie Dréville qui était en 2008 artiste associée avec Roméo Castellucci. Et Valérie décide avec Jean-François de faire Partage de midi et que le spectacle se fasse de façon collective. Mmh. Et ce que je raconte dans le livre sur ce partage de midi, c'est que, et c'était dans un lieu absolument sublime, la carrière de Boulbon, en pleine nature, on était à 15 km d'Avignon et on vit là-bas pendant un mois et demi, totalement hors du monde, à travailler sur ce texte de Claudel, qui lui-même raconte une dérive de quatre personnages en Chine. Et nous, on a dérivé avec le texte et on a tellement dérivé que le jour où tous les spectateurs sont arrivés, c'était le premier jour du Festival d'Avignon, donc les gens descendent quasiment du train quand ils arrivent sur les gradins de la carrière de Boulbon, et nous, on avait presque oublié qu'il allait avoir une représentation, et donc je raconte comment s'est passée cette première du partage de midi en 2008 au Festival d'Avignon, qui était pour nous un espèce de chemin de croix pendant toute la représentation, mais voilà, mais qui fait partie des expériences théâtrales et qui sont en plus... Et on apprend aussi beaucoup des échecs et de rater mieux, rater encore et tout ça, comme dit Beckett. Donc c'est ça que je raconte de façon humoristique, parce que quand on en parle aujourd'hui, c'est drôle, c'est un moment drôle.
Nicolas Bouchaud, malheureusement, on n'est pas au théâtre et j'ai pas le pouvoir de suspendre le temps. Il nous reste moins d'une minute. Juste racontez quand même aux auditeurs, parce que en 30 minutes, on n'arrive pas à refaire 30 ans de route, la vôtre, Nicolas Bouchaud. Mais qu'aux dernières nouvelles, vous étiez à la table du grand inquisiteur mis en scène par Sylvain Creusevaux, joué en septembre au Théâtre de l'Odéon à Paris. Une version longue des Frères Karamazov de Dostoïevski, mise en scène aussi, était en jachère. Elle l'est restée pour l'instant. On espère vous retrouver un jour dans cette pièce-là. Et puis, il y avait du Thomas Bernard dans l'air, hein, maîtres anciens au Théâtre de la Bastille. Ça devait reprendre peut-être en février, peut-être en mars, peut-être bientôt, on espère. Juste dans cette pièce, vous reprenez les mots du dramaturge autrichien. Vous vous dites, je me suis faufilé dans l'art pour échapper à la vie. L'art en dehors du monde détesté. Voilà ce que dit Thomas Bernard. L'art, il est hors du monde ou il nous parle du monde? Je voudrais juste que vous terminiez là-dessus, pour vous, à vos yeux.
Il n'est pas du tout hors du monde. Il nous parle du monde et je dirais peut-être qu'il, plutôt qu'il n'en parle, il témoigne pour le monde.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Bouchaud, d'avoir été avec nous autour de cette grande table. Sauver le moment, l'expression est donc que de Serge Danet. Vous l'avez reprise pour nommer ce livre où vous vous racontez, qui paraît chez Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous. On attendra de vous retrouver sur scène très bientôt.